Le dossier du jour nous conduit dans le Olomami. Cette jeune province est confrontée à plusieurs difficultés d'ordre économique. Elle ne compte aucune entreprise étrangère. Les nationaux qui y investissent possèdent de faibles capitaux. Conséquence, il n'y a pas d'emploi pour la jeunesse et la province assiste à un exode de sa main-d'œuvre. Ces difficultés économiques touchent aussi l'université de Kamina, dont les étudiants, pour la plupart, ne savent où effectuer leur stage académique à cause du manque d'entreprises pouvant leur permettre de lier la théorie à la pratique. Que fait l'UNICAM pour contourner ces difficultés? Élément de réponse avec Karine Topé.
Le gouverneur Jackson Kalenga Mwenzemi affirme que la province du Olomami regorge 90% de terres arables. Elle a une grande vocation agricole à elle seule. Elle peut nourrir le Grand Katanga et une bonne partie de la République démocratique du Congo. Au-delà des terres arables, le Olomami a aussi une vocation minière. On y trouve d'importants gisements miniers de cuivre et du cobalt. Elle a aussi des lacs et rivières très poissonneux. Et pourtant, cette province est pauvre et il n'y a pas de grande entreprise capable de résorber le chômage. Les étudiants qui décrochent leur diplôme à l'université de Kamina et qui sont en quête d'emploi sont obligés de se rendre dans d'autres provinces du pays, témoignage d'un étudiant.
Je suis étudiant à l'université de Kamina, à la faculté des sciences agronomiques. Je n'ai pas effectué le stage dans les Olomami parce que nous cherchions une entreprise agricole qui est bien équipée, où il y a beaucoup de machines agricoles pour bien passer le stage parce que nous, on a l'envie de voir, pratiquer, transformer ce qu'on a vu à l'université, donc la théorie en pratique. Je me retrouve dans le Lualaba pour le stage.
Les habitants de Kamina demandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire venir les investisseurs étrangers.
La situation ici à Kamina est vraiment précaire. Je demande vraiment aux autorités de produire beaucoup plus d'efforts afin d'appeler beaucoup d'investisseurs.
Eu égard à ce qui précède, que fait l'université de Kamina pour contourner ces difficultés? La réponse avec Banzaleng Kikwike Colin, recteur de l'UNICAM.
Pour contourner cette difficulté, pour les étudiants finalistes, nous les envoyons carrément à Lubumbashi. Nous avons des partenariats avec l'université de Lubumbashi pour un stage de 18 mois. Il ne vient à Kamina que pour prêter serment.
Est-ce que vous avez déjà pensé à créer des filières qui vont permettre aux étudiants, une fois terminés, de créer l'emploi au lieu qu'ils attendent d'être des demandeurs d'emploi?
Nous avons 6 filières à l'université de Kamina et dire qu'il faut en créer d'autres. Difficile parce que déjà avec les 10 filières existantes, nous invitons plus de 52 professeurs. Nous payons 600 dollars pour un professeur aller-retour. Hein. Si nous devons ajouter une filière, c'est-à-dire nous allons ajouter le nombre de professeurs visiteurs, et là nous ne serons pas tenus. Pour contourner ces difficultés, nous allons bientôt, je pense ici à moi, ouvrir notre propre clinique universitaire.
Lubumbashi, Karine Topé, Radio Kapi.
Revue de presse.
Bonjour Blaise Chindani.
Bonjour Jocelyne. Le sujet sur la réplique du vice-premier ministre de l'Intérieur à la Chambre haute du Parlement est revenu dans la majorité des journaux parus ce matin à Kinshasa. 7 sur 7.c des titres, Sénat Ramazani Shadari, le projet du gouvernement n'a jamais proposé un seuil de représentativité au niveau national. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari, a assuré que le projet de loi électorale déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale n'a jamais prévu des seuils de représentativité au niveau national, renseigne les confrères. Dans sa réplique mardi 12 décembre aux nombreuses préoccupations des sénateurs sur la loi électorale poursuit les médias en ligne, Shadari a rappelé que c'est l'Assemblée nationale qui a ramené le seuil au niveau national à 1%. Pour lui, note le portail, le texte du gouvernement n'a jamais été changé, modifié ou trafiqué. Selon lui, la commission gouvernementale avait décidé d'un seuil de 3% au niveau de la circonscription électorale et non au niveau national, renseignent les médias en ligne. Avant de mettre en exergue le propos du VPM Shadari, je cite, « C'est votre chambre sœur qui a tranché en ramenant le seuil à 1% au niveau national pour les législatives nationales, 3% au provincial et 10% au local et municipal. » D'un ton presque ironique, Shadari a martelé que, dans le texte transmis à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala, les seuils prévus étaient de 3% au niveau de la circonscription électorale électorale, note ses sites internet d'information. Plénière électrique au Sénat, loi électorale, Ramazani Shadari éclaire Kengo valide. Sur les titres à la une de la prospérité, magistrale, lance la consoeur. Voilà ce qu'a été la réplique d'Emmanuel Ramazani Shadari aux brûlantes questions des sages du Sénat. Hier, en effet, poursuit les tabloïdes, le VPM en charge de l'intérieur a eu son deuxième face-à-face avec les sénateurs. Le tact et la touche étaient d'usage. Rien de plus normal. Ancien député, renseigne le journal, Ramazani Shadari était à l'aise à l'estrade rencontrant une à une les préoccupations de 21 élus des élus qui lui avaient été exprimées 24 heures auparavant. Donc, cette loi a été déclarée recevable. D'ici 48 heures, note le quotidien, la commission politique administrative et judiciaire de la Chambre haute apportera les textes amendés pour adoption. Des observateurs de la scène politique congolaise tablent déjà sur une adoption en non-conformité et non sans contestation de l'opposition. Ensuite, poursuit-elle, le projet de loi devra faire l'objet du travail d'harmonisation d'une commission paritaire Sénat-Assemblée nationale. Au cas où les divergences persistent, une thèse plausible face à cette loi électorale en devenir, c'est l'avis de la Chambre basse qui primera, conclut la prospérité. Voilà tout pour le moment, Jocelyne Moussao.
L'invité.
La plateforme Le Centre appelle à la tenue d'une table ronde pour lever tout équivoque autour du projet de loi électorale. Mais une énième table ronde pourrait-elle résoudre notamment la crise politique qui s'écoule à RDC? Réponse de Germain Kambinga, président de cette plateforme, puisqu'il est notre invité, et répond aux questions de Pascal Masireka.
Germain Kambinga, bonjour.
Bonjour.
La RDC a connu plusieurs tables rondes avec différentes appellations, conclaves, conférences, dialogues entre Congolais, etc. Depuis que votre plateforme politique existe, vous revenez sur la tenue d'un autre rendez-vous de ce genre. Pourquoi faire?
Est-ce que c'est un dialogue de trop? Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de notre pays, mais c'est un mode de gouvernement également, ce mode, cette spécificité congolaise. Il faut trouver les voies et moyens de baliser ce chemin dans un esprit de consensualité et reprendre le processus politique. Pourquoi pas? Est-ce que ça nous coûterait plus cher de dialoguer entre nous? Est-ce que ça nous coûterait plus cher de détruire ce pays et d'ouvrir la voie au chaos? C'est un choix. Nous avons fait le choix de la modération et nous considérons que oui, il y a eu des dialogues. Oui, le dialogue doit être permanent. Oui, il faut continuer à dialoguer et que la facture d'un dialogue, la facture multiforme d'un dialogue sera toujours moins élevée que la facture d'une confrontation ou d'une guerre.
Monsieur Germain Kambinga, avez-vous le sentiment que le problème de la RDC ne doit se régler que par des conclaves? N'est-ce pas le non-respect des textes et la légèreté dans la gestion de la chose publique qui pose problème en définitive?
Oui, nous reconnaissons que la force des institutions doit être au-dessus de la force des hommes, mais nous reconnaissons également que c'est un processus. Nous sommes un pays en transition démocratique. Partant de là, nous devons travailler en toute conscience pour que chacune des victoires ne soit pas plus coûteuse que la défaite qu'engendre cette victoire. Autrement dit, l'équation à résoudre pour nous, elle est toute simple. Comment faire avancer notre pays sans perdre les acquis? Et nous ne voyons pas une autre recette que celui d'une concertation permanente, mais aussi d'un dialogue formel avec, cette fois-ci, une implication contraignante. C'est notre proposition de sortie de crise de la communauté internationale, comme lors du dialogue de Sun City, pour que l'accompagnement qui se fasse nous oblige, au-delà de nos stratégies tactiques de confrontation politicienne, nous oblige à atterrir sur un résultat qui soit en phase avec les aspirations légitimes de notre peuple. Ça veut dire l'organisation des élections et l'amorce d'une alternance réellement démocratique acceptée par tous.
Dans votre déclaration, vous relevez aussi le fait que beaucoup de responsables politiques en RDC semblent ne pas voir la détérioration continue du pouvoir d'achat des populations, une détérioration qui est accentuée par la perte d'emplois à la suite notamment de la fermeture de beaucoup d'entreprises dont Nestlé. Que faire finalement?
La majorité doit arrêter de faire la politique de l'autruche et de considérer que les choses peuvent continuer comme cela. L'opposition doit arrêter de penser que l'apocalypse proclamée ne touchera qu'un camp. Non, nous devons revenir à la raison et bien comprendre ces signes-là, notamment sur le plan économique, qui sont la conséquence directe de notre irresponsabilité sur la gestion des questions politiques. Nous devons redonner de la lisibilité et de la crédibilité au processus politique. Cela rassurera les opérateurs économiques et les différents impacts sociaux également.
Venons-en maintenant à la taxe qui a coûté la vie à 14 casques bleus jeudi dernier dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Comment éviter à l'avenir ce genre de drame?
La puissance acquise de notre armée avait fortement reculé. Maintenant, nous devons considérer que la définition d'une trajectoire politique inclusive et plus crédible est également une piste de solution. Parce que si le message qui est envoyé, c'est qu'au Congo, nous avons un pays totalement divisé avec un État, un gouvernement affaibli, vous imaginez bien que cela encourage toutes les velléités extrémistes à s'exprimer et à tenter l'aventure d'une déstabilisation de notre pays. Donc la recette miracle, il n'y en a pas deux, c'est une réconciliation des Congolais.
Monsieur Germain Kambinga, je vous remercie.
Okapi Sport. Enoch Matondo, bonjour.
Bonjour, Justine Moussoupondé, bonjour à tous les amis sportifs. Défaite des deux clubs de la République démocratique du Congo à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions qui se déroule à Rades en Tunisie. Le BC Mazembe a perdu 67-91 face à l'Union sportive de Monastir et puis Nujen est tombé face à l'étoile sportive de Rades sur le score de 108-67. Et maintenant, cette note gaie pour les Congolais avec la victoire de Kalinga alias Maxi Maximum qui a battu le Tunisien au Marocain au championnat d'Afrique de boxe anglaise. C'est donc Thibaut Bakalinda qui a eu raison du Tunisien Marocain Faisal Aramis. On revient sur ce combat avec son manager Tariq Saadi que nous venons de joindre tout à l'heure au niveau de Paris en France. On commence par le basket par Tariq Saadi, manager de Thibaut Bakalinda.
Alors, tout d'abord, il faut comprendre que c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque il a que 7 combats à son actif quand nous avons fait ce championnat. Et normalement, il faut déjà atteindre 10 combats pour pouvoir prétendre à jouer le titre d'Afrique, de la version ABU, est rattachée à la WBC. Je vous fais rentrer dans les classements mondiaux dès que vous avez cette ceinture. Donc, un titre très important. Oui, sa qualité physique et ses aptitudes ont donné raison puisqu'il lui a été donné le droit de concourir pour ce titre.
Et puis, autre information en football, le tout-puissant Molungé de Mbandaka vient donc de se séparer à l'amiable avec son entraîneur. Nous a confié le président de cette équipe de Mbandaka, Jean-Claude Bendé, qui a accordé à votre radio une interview exclusive. Revient sur cette séparation à l'amiable avec José Mundélon, l'écoute.
Mais malheureusement, l'entraîneur qui nous a conduits jusqu'à la 5e journée, il a eu à décliner ses responsabilités. Maintenant, nous avons engagé un nouvel entraîneur et je pense qu'avec ce nouvel entraîneur, il y aura un nouvel esprit également dans l'équipe et les enfants pourront avoir une cohésion qui leur permettra de montrer leur niveau de jeu. Je pense qu'il s'est passé également beaucoup de problèmes au niveau de l'attente dans le club, attente entre l'entraîneur et les joueurs. Cela n'a pas amené une bonne cohésion au sein de l'équipe, mais j'espère, avec les conseils que nous avons eu à donner aux uns aux autres, surtout aux joueurs, nous allons améliorer les conditions même de jeu dans l'équipe.
Bon, pour ne pas entrer dans le secret du club, c'est lui qui est parti ou c'est une séparation à l'amiable?
Bien sûr, parce que lui-même m'a demandé, il a préféré rester à Kinshasa.
Voilà, nous allons y revenir à 8h26.
Merci, Enoch Matondo. Le cours de change pour terminer cette édition. Un dollar américain s'achète à 1558 francs congolais et se vend à 1622 francs congolais. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.